Merci d'avoir rappelé l'importance des facteurs culturels et historiques. Et moi, je suis frappé par le fait que les trois frontières, que tu cites pas frontières au sens limite, mais frontières au sens frontières à conquérir, au sens un peu nouvelle frontière américaine, quoi. Les trois frontières de l'Europe que tu cites, le Rhin, l'Oder et le Bosphore, reprennent au fond les trois lignes d'affrontement qui étaient celles que proposait de suivre justement Huntington, qui étaient d'une part les nations, ensuite les idéologies et troisièmement les civilisations. Simplement, au lieu de les lire comme des lignes d'affrontement, on les lit au contraire comme des lignes de frontières à conquérir et de défis au fond pour arriver vers un monde plus pacifié. Sur le débat fédéralisme, intergouvernemental, etc., ben peut-être Olivier Ferrand qui a travaillé aussi sur les différents types de modèles d'Europe. Est-ce que ça peut être une Europe fédérale? Est-ce que ça peut être une Europe uniquement intergouvernementale? Est-ce que c'est encore autre chose? Peut dire quelque chose et situer précisément comment la Turquie est un enjeu là-dedans.
Merci Joël. Donc je suis président de la Fondation progressiste Terra Nova et j'ai beaucoup professionnellement travaillé sur l'Europe. Quand j'étais conseiller de Lionel Jospin à Matignon, j'étais chargé des questions européennes. Puis j'ai travaillé avec Romano Prodi à la Commission. Et j'ai aussi participé auprès de Pierre Moscovici à la négociation sur le traité constitutionnel. J'ai écrit cette année un livre qui s'appelle « L'Europe contre l'Europe » chez Hachette. Je trouve que la façon de présenter le débat de notre troisième table ronde, quelle Europe avec la Turquie, est une question particulièrement pertinente quand on adresse la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, parce que ça renvoie au problème principal, qui n'est pas la Turquie, mais qui est bien l'Europe. Quelle Europe on veut pour l'avenir. Je fais cette incidente parce que je parle là-dessus parce que je pense que c'est vraiment le point central. On a dit, on entend souvent. J'étais hier et avant-hier justement à Istanbul pour parler de l'adhésion turque et on entendait les opinions publiques en France, etc., en Allemagne sont contre l'adhésion de la Turquie. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. La question de l'opinion publique, vous l'avez montré, elle est fluctuante. Moi, quand j'ai fait campagne législative dans le sud de la France, dans un département qui a voté à 65% non à la Constitution européenne, on ne parlait jamais de la Turquie. On parlait éventuellement du Maghreb, mais pas de la Turquie. Et ce n'est pas une question centrale pour les Français. Le problème de la Turquie, ce sont les élites françaises. Si on n'arrive pas à convaincre l'opinion, c'est qu'il n'y a pas Il n'y a personne pour mener la bataille politique, ou très peu de gens pour mener la bataille politique de conviction de l'adhésion de la Turquie à l'Europe. Et de nouveau, on le voit bien dans les sondages que vous avez donnés, il n'y a pas d'opposition de principe viscérale à une entrée de la Turquie en Europe. Il y a un problème d'élite, et que ce soit les élites de gauche ou de droite, intellectuelles comme politiques, de Robert Badinter à Nicolas Sarkozy, on a une immense majorité de nos élites qui ne veulent pas de la Turquie en Europe. Pourquoi ? Ce n'est pas une question de religion, peut-être pour Giscard, le peuple chrétien, mais je pense que c'est très minoritaire. C'est une question de projet pour l'Europe. Nos élites, qui sont en tout cas pro-européennes, pensent que la Turquie est un danger, n'est pas compatible, pour le dire sobrement, n'est pas compatible avec le projet européen qu'ils défendent. Et donc la vraie question qu'il faut se poser, celle du projet européen. Quel est ce projet européen et quelles sont ses frontières, une fois qu'on sait quel est le projet ultime pour l'Europe, projet que nous n'avons jamais voulu définir, parce que on est resté dans une ambiguïté constructive dans la construction européenne, puisqu'on a mêlé des gens qui n'étaient pas d'accord sur l'objectif ultime de l'Europe, mais qui pouvaient s'accorder sur les étapes intermédiaires, surtout sur les premières étapes. Et donc on a toujours laissé dans le doute, depuis la communauté européenne de défense, qui était le dernier moment où les fédéralistes ont voulu imposer la révolution fédérale à travers une armée commune et un gouvernement politique pour porter cette armée, mais depuis la communauté européenne de défense, on a oublié, on a masqué le projet ultime de l'Europe pour pouvoir essayer d'avancer pas à pas. Et donc, quel est ce projet ultime de l'Europe? Quels sont les projets possibles et comment se place la Turquie dans ces différents projets? Parce que je veux essayer de montrer, c'est que quel que soit le projet en réalité, la Turquie y a sa place. Le premier avenir de l'Europe, eh bien, c'est son présent. Finalement, et si on s'arrêtait là? Franchement, c'est aujourd'hui l'avenir le plus probable de l'Europe quand on voit l'épuisement des différents gouvernements et des nations sur le projet européen. Et si on s'arrêtait là, bah, ma foi, si on s'arrêtait là, on aurait déjà accompli beaucoup de choses. Un grand marché, la paix entre nous, et quelque chose de très stable. Vous savez, on dit souvent, l'Europe, c'est comme un vélo, il faut pédaler. Si on pédale pas, le vélo tombe. Ben, c'est faux. Aujourd'hui, on a un état stable de l'Europe, de type confédéral, de type suisse européenne. Voilà, on a fait beaucoup plus qu'un marché. On a fait un marché du droit, des décisions politiques en commun. Mais ce n'est pas un système politique fédéral. C'est une confédération relativement lâche où on prend des décisions en commun, très proche d'ailleurs du mode de fonctionnement suisse. Donc c'est la Suisse européenne. Bah, si on en est là, si on s'arrête là, la Suisse européenne, ça a des valeurs quand même collectives. La démocratie de marché, en gros, avec justement une économie très intégrée, du droit commun... Bon. C'est une identité relativement souple, relativement lâche. Et les frontières, c'est une question un peu secondaire. On voit bien, c'est l'Europe, quoi. Donc, mais que ces frontières sont relativement étroites ou relativement lâches, c'est assez neutre par rapport à cette Suisse européenne. Et la Turquie, dans ce cas-là, y a toute sa place, comme des tas d'autres pays périphériques à l'Europe, comme l'Ukraine, comme la Biélorussie, voire le bassin méditerranéen, qui font partie de cette zone européenne, qu'on peut définir relativement souplement. Donc dans ce cas de figure, il n'y a rien qui empêche l'intégration de la Turquie, puisqu'il n'y a pas de valeur très forte qui les exclurait. Le deuxième projet pour l'avenir de l'Europe, c'est un projet relativement iconoclaste, mais que je cite en deuxième, parce que c'est encore plus facile, c'est celui que j'ai appelé l'Europe-monde. C'est le projet que défendent Joschka Fischer et Michel Rocard aujourd'hui, qui est de dire bon, on a essayé de faire l'Europe fédérale, mais le temps est passé, ce rêve-là c'est fini, et derrière nous on n'arrivera pas à atteindre. Ça fait 20 ans qu'on essaye de le faire, hein, depuis la chute du mur, on a des négociations continues institutionnelles pour essayer de franchir le cap politique, de faire l'Europe politique. On est passé de la CEE, donc la communauté technique, hein, la communauté économique européenne, à l'Union, sous-entendu l'union politique. Jacques Delors, pour la première fois, a parlé de constitution au milieu des années 90. On a eu le traité constitutionnel, mais on voit bien que ça résiste. De négociation en négociation, d'Amsterdam de Maastricht à Amsterdam, d'Amsterdam à Nice, de Nice à la Convention, de la Convention à Lisbonne. On essaie de passer, mais on n'y arrive pas. L'Europe politique ne se fera pas. Et se demandent Michel Rocard et Joschka Fischer, mais est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à vouloir faire l'approfondissement alors qu'on n'y arrive pas? Alors que de l'autre côté, on a négligé l'autre élément de l'Europe, qui lui marche très bien, qui marche tout seul, qui est l'élargissement. Et avec l'élargissement, on fait des choses merveilleuses. Les pays qui intègrent l'Europe se démocratisent, se pacifient quasi instantanément. Se développe économiquement de manière rapide. Ça a été le cas pour l'Irlande, pour le Portugal, pour l'Espagne, pour la Grèce et aujourd'hui pour les pays de l'Est. Et converge économiquement vers les pays les plus avancés de l'Europe. Et donc c'est un grand succès. Et que quand on recule les frontières d'un cran, on voit comment immédiatement les pays qui sont à la nouvelle frontière veulent intégrer l'Europe. C'est leur premier objectif. Donc quand on a intégré les pays de l'Est, maintenant c'est la Turquie qui veut intégrer. Bon. Et finalement, pourquoi est-ce que le projet de l'Europe, ce ne serait pas l'élargissement? Un élargissement indéfini à tous les pays qui veulent, qui acceptent le mode de fonctionnement de l'Europe. De nouveau aujourd'hui, c'est la démocratie de marché. C'est les critères de Copenhague, hein, dans le jargon technique européen. Et dans ce cas-là, le projet européen change complètement de nature. L'Europe devient la préfiguration régionale d'une organisation des Nations Unies qui marche, qui arrive à pacifier ses membres et à gérer les relations entre ses membres, à les réguler et quand on ne trouve pas à négocier quand il y a des problèmes, et quand on n'arrive pas à résoudre les problèmes, à prendre à témoin un arbitre neutre et accepté, qui est la Commission européenne ou la Cour de justice. Alors ça peut vous paraître iconoclaste comme projet, c'est vrai, mais on a oublié que c'était le projet des pères fondateurs de l'Europe, au congrès de La Haye, en 1948, quand vous regardez la délégation, enfin, c'était le projet qui était défini à La Haye. Quand vous prenez les propos de Léon Blum, qui était le chef de la délégation française, eh bien, c'était explicitement ça, le projet de l'Europe. C'était, voilà, l'absence de société des nations qui marche, l'échec de la société des nations dans les années 30 a abouti à la guerre. Et donc notre objectif désormais, c'est de créer une société des nations qui marche. On ne peut pas le faire au niveau mondial parce que le rideau de fer est tombé. Mais on peut le faire au niveau, on peut pas le faire au niveau mondial, mais on peut le faire au niveau régional européen. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que l'Europe, c'est quand même le foyer de toutes des trois dernières grandes guerres. Et donc, c'est bien de commencer par l'Europe. Donc, commençons par l'Europe, parce que là, les conditions historiques existent. Et puis, le jour où nous pourrons l'étendre au reste du monde, nous le ferons. Et ce jour est arrivé avec la chute du mur en 1989. Et d'ailleurs, le mode de construction européenne, à partir de 1959, est un mode de construction de type onusien et pas de type fédéral. Une fédération, ça se dote d'attributs de puissance tournés vers l'extérieur. Une fédération, ça porte l'armée, ça porte la diplomatie. L'Europe, elle n'a pas du tout fait ça avec la CE. Elle a porté des modes de régulation internes. Alors, l'économie, pour l'essentiel, l'agriculture, voilà, c'était des modes de régulation internes à l'Europe, et donc tournés vers l'intérieur, et donc tournés vers ses membres, et pas du tout vers la projection externe. Et donc, en réalité, on a conçu l'Europe comme une forme de régulation type ONU. Et donc, aujourd'hui, le moment serait venu de revenir aux sources et de s'étendre vers le reste du monde. Alors, évidemment, dans cette projection, dans ce projet-là, la Turquie a toute sa place, comme tous les pays, comme tous les pays du monde, un jour ou l'autre. Troisième et dernier projet, évidemment, c'est celui où les questions vis-à-vis de la Turquie vont être les plus fortes, c'est le projet d'Europe politique. Malgré les difficultés qu'on a eues, on voit que le traité de Lisbonne est passé, et puis il reste encore des fédéralistes en Europe. Et donc ce projet n'est pas mort. Je pense même qu'il peut émerger par la bande. Je pense on pourrait y revenir si vous voulez, que le Parlement européen aujourd'hui a les moyens de faire cette fameuse révolution fédérale qu'on n'avait pas pu faire dans les années 50. Et qu'elle se justifie, cette Europe politique, parce que nous avons des valeurs propre à l'Europe, une identité propre à l'Europe, qui fait qu'il existe bien, même si les citoyens européens sont des Européens qui s'ignorent, mais que derrière, nous avons des valeurs sous-jacentes qui créent une communauté citoyenne européenne, une communauté d'Européens qu'on peut définir assez simplement. Et donc, s'il y a une identité européenne, il y a des Européens, des non-Européens, il y a des gens dedans et des gens dehors, et il y a des frontières pour séparer les Européens des non-Européens. Et la question qui se pose, c'est quelle est cette identité européenne et est-ce que la Turquie en fait partie ? Alors, pour définir une identité, si on reprend la formule de Renan, une identité, c'est, ou une nation, c'est un riche legs en commun, ça c'est tourné vers le passé, et la volonté de vivre ensemble, ça c'est tourné vers l'avenir. Alors, est-ce que la Turquie répond à ces critères ? Alors, je laisse de côté la géographie, puisque le Bosphore, c'est bien gentil, mais le Bosphore, ça, c'est pas rien. La preuve, même Istanbul est de part et d'autre du Bosphore. Alors, je vois pas pourquoi on se fixerait une frontière physique de cette nature. En revanche, on peut regarder l'histoire. Alors, si on regarde l'histoire, je vais pas être trop long, mais il y a une histoire large dans laquelle la Turquie fait clairement partie de l'Europe. C'est la civilisation européenne méditerranéenne. C'est l'Europe de ses origines. L'Europe, elle s'est construite tout autour de la Méditerranée, avec la civilisation hellénistique, puis romaine. Donc là, pas de problème, si on revient aux origines, la Turquie fait pleinement partie de l'Europe, comme le Maroc. Mais, et c'est là que c'est intéressant, on peut concevoir une identité européenne plus réduite, dans laquelle il y a la Turquie, mais pas le Maroc. Parce que le Maroc se définit aujourd'hui, d'ailleurs, on y reviendra sur la volonté de vivre ensemble. Le Maroc se définit aujourd'hui comme comme un pays, je cite le Maroc puisque le Maroc veut entrer, se définit aujourd'hui comme une nation, arabe, musulmane, pas comme une nation européenne. Les Turcs, quand vous écoutez les Turcs, au moins les Turcs, que vous leur posez la question, mais vous êtes quoi, européen ou pas européen, pour eux, la question ne se pose pas. Ils sont européens. C'est même quasiment une offense de leur dire, mais comment vous pouvez douter qu'on est européen? Et de fait, quand on regarde l'histoire turque, elle est très largement européenne, pour ne pas dire quasi exclusivement européenne. Elle est d'abord dépositaire de l'Empire romain, quand même, de Byzance. Quand le reste de l'Europe avait plongé dans la barbarie, il restait un bout de civilisation romaine, c'était sur le territoire turc aujourd'hui, avec Byzance. Mais même lorsque l'Empire ottoman a conquis Byzance, avec Constantinople, Constantinople n'a pas fait disparaître, n'a pas fait sortir Byzance de l'Europe. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle a assumé une continuité. L'Empire ottoman a assumé la continuité de l'Empire romain d'Orient dans des tas de domaines, à commencer par l'organisation politique. Le césaropapisme, c'était le primat du politique sur le religieux, ce qui est fondateur en Europe. Et puis des choses comme purement culturelles, la cuisine, la musique, l'héritage culturel global. Et donc on peut dire sans trop tordre la réalité que l'Empire ottoman a été le légataire universel de l'Empire romain d'Orient. Mais au-delà de ça, au-delà de cette continuité, l'Empire ottoman en soi, au-delà de sa continuité byzantine, est européen et s'est conçu comme européen. Il a... Quand vous parlez aux historiens turcs, enfin même aux Turcs, ils vous disent voilà, certes on dominait une partie de l'Asie territorialement, à commencer par l'Anatolie, mais on n'y a rien fait. Et d'ailleurs, vous trouvez très peu de souvenirs architecturaux, enfin d'éléments architecturaux historiques ottomans. Je suis beaucoup trop long, c'est ça. du côté anatolien. En revanche, vous en trouvez des tas du côté balkan, du côté bulgare, du côté roumain. Toutes les grandes institutions, enfin toute une bonne partie des institutions ottomanes sont de ce côté-là. Non seulement on regarde vers les Balkans, mais l'école de guerre ottomane, elle est, je sais plus, c'est en Bulgarie ou dans les Balkans. Et quand l'Empire ottoman s'effondre, les populations la Turquie rapatrie une bonne partie de ses populations en termes ethniques. Quand vous regardez ethniquement aujourd'hui la Turquie, une bonne partie ethnique de cette population a comme origine les Balkans, la Grèce et la Roumanie et la Bulgarie. Et même quand vous regardez l'Anatolie, vous allez me dire, oui, c'est vrai pour le Bosphore, c'est vrai pour l'Istanbul, mais c'est pas vrai pour l'Anatolie. Mais même quand vous regardez les Anatoliens, prendre les Anatoliens pour des Turkmènes descendus de leur cheval, c'est faire une erreur historique et ethnique absolue. Ça n'est pas vrai. Ces populations-là sont d'origine aussi européenne, elles ont transité de manière plus longue, mais n'oubliez pas aussi les origines chrétiennes de l'Anatolie. Vous avez une bonne partie de l'histoire chrétienne qui s'est jouée en Anatolie. Éphèse, Antioche, Nicée, Myra sont des hauts lieux historiques de la chrétienté. Enfin, dernier point, le kémalisme, après l'Empire ottoman, le kémalisme, alors lui, est intégralement tourné vers l'Europe. Et ce qui fait, quand vous regardez toutes ces étapes, et vraiment je m'arrête là parce que je vois que je suis trop long, toutes ces étapes historiques, quand vous regardez le riche leg, le leg historique, il classe la Turquie majoritairement, si ce n'est très majoritairement, dans le camp de l'Europe. Et donc, même si vous réduisez l'identité européenne à l'Europe et pas à la civilisation européenne, le berceau méditerranéen, eh bien, dans ce cas-là, vous exclurez le Maroc, vous n'exclurez pas la Turquie. Exclure la Turquie est une erreur au regard de son histoire. Donc ça, c'est pour quand on regarde vers le passé. Alors, quand on regarde vers l'avenir, donc sur la volonté de vivre ensemble, ce que nous démontre depuis 1963, date de dépôt de la candidature d'adhésion de la Turquie à l'Europe, c'est que la Turquie veut vivre en européen et veut nous rejoindre. Alors peut-être faudra-t-il expliciter de manière un tout petit peu plus claire ce que sont les valeurs et l'identité européenne. Est-ce que c'est plus qu'un club d'Européens qui se réunit. Voilà, c'est plus que ça. Si on veut vraiment faire une Europe politique, ce sera avec des valeurs plus fortes que ça. Et on peut, mais on peut les définir. Et je pense que la Turquie a la volonté de rejoindre ces valeurs. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que même si vous définissez une Europe politique, la Turquie y a toute sa place, au-delà même de l'intérêt que peut représenter la Turquie pour cette Europe politique, cette Europe puissance pour l'avenir, ses 500 000 soldats, sa capacité de projection et d'influence en Asie, voire du côté du Caucase et de la Russie, et sa capacité à démontrer, via son intégration dans l'Europe, les valeurs, justement, que sont ces valeurs de laïcité ouverte, d'intégration que peuvent représenter l'Europe. Donc, dans les trois scénarios possibles pour l'avenir de l'Europe, il y en a deux où la Turquie fait évidemment partie de l'Europe, la Suisse européenne et l'Europe monde. Et dans la troisième, celle qui fait débat, dans l'Europe politique, franchement, sauf à réduire l'Europe à un club chrétien, ce qui serait un extraordinaire renversement de perspective, puisque nous disons aujourd'hui à la Turquie qu'elle n'est pas suffisamment laïque pour rejoindre l'Europe, mais si on réduit l'Europe à un club chrétien, c'est l'Europe qui n'est pas suffisamment laïque pour accueillir la Turquie, ce qui quand même sera un gros paradoxe. Sauf si on réduit l'Europe à ce club chrétien, dans tous les autres cas de figure, la Turquie a sa place dans l'Europe politique et toute sa place.
Merci. Je vous avais dit que pour essayer de voir ce qu'on pouvait envisager comme projection dans l'avenir, il fallait remonter dans le passé. Là, on est remonté très loin. Mais vous avez remarqué quand même qu'on a échappé à Soliman le Magnifique et à François Ier.
On oublie la révolution des quand même, qui
est... Plus sérieusement, dans l'exposé d'Olivier, moi je retiens entre autres cette espèce de paradoxe quoi, qui est que, à la limite, la justification pour l'adhésion turque est d'autant plus forte qu'on veut une Europe politique forte et intégrée que, qu'une Europe qui serait une Europe faible et avec un lien politique extrêmement dilué, dans lequel bien sûr la Turquie pourrait adhérer, mais aussi beaucoup d'autres, et sans que d'une certaine façon ça pose problème. Je suis assez sensible à cette idée que si on veut une Europe politique et une Europe intégrée, il faut d'une certaine manière l'adhésion de la Turquie. Mais je laisse la parole au dernier intervenant de la table ronde pour la première intervention, Monsieur Akhtar.
Bien, Joël, je veux justement parler de ça, mais nous avons une problématique positive. Alors, je suis discipliné, je reste dans cette problématique positive qui suppose que la Turquie est déjà dans l'Europe. Parce que le titre, c'est « Quelle Europe avec la Turquie ?» Mais je suis pas très bon en prospective, à vrai dire. Et alors j'ai essayé une politique fiction, un peu comme Olivier Ferrand. Et j'ai imaginé l'an 2022, donc juste l'année d'avant de l'adhésion, c'est écrit là. Et en France, justement, par rapport... Et j'ai imaginé le... conférence de presse du président du comité de soutien de la ratification du traité d'adhésion avec la Turquie, le fameux CSRTAT. Le président Alain Lamassoure, hein, ensemble avec son collègue, le président du groupe d'amitié avec la Turquie à l'Assemblée, Richard Mailly, bien sûr. Vous ne le connaissez pas, lui. Ah, c'est celui qui veut arrêter que la France paye sa quote-part, parce que la Turquie va recevoir cette année 653 millions d'euros en subvention de préadhésion. Et vu que la contribution de la France au budget de la Commission est de 16%, alors il veut que la Turquie rembourse les 106 millions et dardard. C'est le chef de file du groupe Vigilance, dans le cadre de l'UMP. Mais là, en 2022, il est président du groupe d'amitié avec la Turquie. Alors, ils tiennent une conférence de presse historique avec le président de l'Europe, Daniel Cohn-Bendit, bien sûr. Une conférence entrecoupée par les activistes du bloc identitaire qui scande après chaque phrase des deux présidents, des trois présidents en fait, la Turquie, oui merci. La Turquie, oui merci. Voilà. Non, soyez-en sûrs, c'est trop beau. Hein, n'ayez crainte, je ne vais pas aller plus loin. Le sérieux m'a rattrapé là, j'étais à court d'idées. Hein, et alors je vais passer à des choses plus désagréables. Hein. Alors notre postulat, c'est quelle Europe avec la Turquie et non l'inverse. Donc je ne vais pas parler de tous ces arguments qui militent en faveur d'une Turquie, pourquoi il faut accepter la Turquie, etc. Mais je vais y revenir par un chemin détourné. Alors, il y a beaucoup de raisons objectives, comme vous savez, ou utilitaires, voire utilitaristes, d'une Turquie européenne. À l'Union, on les a évoquées ce matin, on en a parlé un peu maintenant, on en parle dans tous les bouquins. À mon avis, elles restent ambivalentes. Hein. Elles sont. Je voudrais rapidement donner deux exemples. Les routes de l'énergie, par exemple, qu'on cite à volonté, c'est vrai. La Turquie, géopolitiquement, est sur les routes de l'énergie. On vient de signer Nabucco. On cherche à faire de la Turquie une route alternative à la Russie, etc. Bon, c'est très bien. Mais en fin de compte, cette énergie qui va transiter par la Turquie, eh bien, elle va être vendue à qui ? À l'Europe. L'Europe n'a pas besoin de faire adhérer la Turquie pour ça. De toute façon, c'est elle qui achète. Donc, vous voyez, donc, tout ça, il faut faire attention à ce genre d'arguments massus en disant si la Turquie n'est pas dans l'Europe, voilà, on va avoir des problèmes avec l'énergie. C'est pas vrai. Alors, idem pour la population jeune. C'est vrai qu'une population jeune est importante. L'Europe vieillit. Mais enfin, l'Europe, elle a tous les loisirs de prendre les meilleurs dans le monde entier, et des jeunes en plus, avec des bons dents, un peu partout, si elle en a envie. Elle n'a pas besoin de la population jeune de la Turquie. C'est vrai que c'est important, mais je répète, elles sont ambivalentes. Par contre, je voudrais poser la question autrement plus controversée du partenariat avec un pays différent, ou alors en tant que ou conçu, ou entendu et pris comme tel, hein, c'est-à-dire l'apport éventuel de ce partenariat en Europe et surtout en France. Alors, en quoi, ma question est la suivante, une Turquie européenne, laïque, et musulmane, ou laïque, mais musulmane, comme on veut, est importante pour le futur de l'Europe. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ou la future Europe. Hein. Future Europe politique, d'ailleurs. Alors, j'ai deux points. Le premier, le débat sur la place de l'islam dans l'espace public est très avancé en Turquie. Oui, c'est un débat difficile. C'est un débat douloureux, mais le débat existe. Il y a un combat, les femmes, par exemple, elles sont très à cheval sur ce débat, mais il va, à mon avis, dans le bon sens. Et il y a et les croyants s'adaptent à la modernité et les laïcs s'habituent à la présence publique de l'islam. C'est important. Le deuxième point, c'est le message, toujours à travers le postulat de départ, une Turquie européenne, le message à destination des pays de la Méditerranée, du pourtour de la Méditerranée. On a cité Badinter. Badinter, il dit clairement, les Turcs se trompent, les Arabes, ils les détestent et puis ils ne s'intéressent absolument pas à ce qu'ils font. C'est totalement faux. Il suffisait de voir le 17 décembre 2004 une nuée de journalistes arabes de tous les pays du pourtour de la Méditerranée pour écouter le verdict des 15 à l'époque. C'est ça. Non, des 25, pardon. Qui allait décider sur le début des négociations. Donc le monde arabe a suivi et continue à suivre de très près l'adhésion de la Turquie à l'Europe. Alors, pourquoi une Turquie menée par un parti ayant des références islamiques a réussi à se moderniser en sachant se servir de la dynamique européenne. Donc, pour eux, c'est faisable. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous devenir membres de l'Union européenne, ce n'est pas ça, mais cette dynamique européenne, elle va rester dans le coin tant que la géographie ne va pas bouger. Donc, c'est faisable. Deuxième point, pourquoi ça les intéresse? Ce faisant, la Turquie a consolidé sa démocratie, sa modernité, et n'a pas fait de concession sur ses valeurs religieuses. Enfin, ça ne veut pas dire que tous les Turcs se réclament des valeurs religieuses, loin de là. Mais en tout cas, une bonne partie de la population, oui. Donc c'est-à-dire sans se nier, comme disait Lipietz à l'instant. Et puis, troisièmement, sa présence en Europe, est vraiment, n'a pas de prix quant à la compréhension et la place de l'islam dans des sociétés européennes qui n'arrivent toujours pas à coexister avec la population musulmane qui existe dans leur pays, et ce, malgré leur nombre croissant et qui va aller en croissant. On parle de chiffres de 25% de la population européenne autour de 2050, composée de musulmans, pas forcément tous de la même obédience, mais enfin des musulmans, et il va falloir compter avec. Alors, je termine là. L'Europe politique ou l'Europe puissance que Bourlange appelle de ses voeux et voit la Turquie comme un obstacle majeur à la réalisation de cette Europe politique aux puissances, eh bien cette Europe puissance-là passe peut-être justement par cette Turquie-là, qui est différente, hein, qui est différente mais moderne, qui se réclame des principes démocratiques chers à tous les membres de l'Union européenne, mais qui est différente dans sa religion, pas en totalité, en partie, mais qui peut coexister avec ses collègues laïcs, laïcards, protestants, juifs, tout ce que vous voulez, sans que ces différences deviennent des impositions universalistes. Merci.
Merci beaucoup, Genghis. Merci d'avoir comme ça souligné à quel point cette question est au fond cruciale, pas seulement pour la Turquie, pas seulement pour le monde musulman et le devenir du monde musulman, mais qui est très attentif, mais je crois aussi pour ce qu'on pourrait appeler, avec peut-être un peu de grandiloquence, de ce terme qui était fréquent dans les écrits des philosophes et intellectuels qui réfléchissaient sur l'Europe un peu avant la guerre et surtout après la guerre, le salut spirituel de l'Europe. C'est-à-dire que si on pense qu'effectivement la question de l'Europe, c'est la question de l'articulation entre un certain nombre de principes et un respect extrêmement profond du pluralisme culturel, que si l'identité européenne, c'est le pluralisme d'une certaine manière, alors à ce moment-là, effectivement, d'une certaine manière, l'adhésion de la Turquie est à la fois une garantie de ce pluralisme et une occasion de ce pluralisme, enfin, de façon tout à fait évidente.